Je prends quelques minutes pour vous parler un petit peu de moi, pour vous dire qui je suis, de manière que vous sachiez à qui vous avez affaire quand même. Donc, j'ai un petit peu connu Michèle Kos de son vivant. Je suis allée chez elle dans sa petite maison dans les Causses qui s'appelait Trois Guinées. Et nous avons sympathisé. Elle m'a surtout beaucoup aidée pour la publication de mon premier roman. Elle l'a lu, elle m'a fait des commentaires, elle m'a soutenue quand j'étais découragée. Donc je lui dois beaucoup et je suis contente qu'il y ait ce petit hommage là pour justement lui rendre hommage. Alors, moi je suis une enseignante et militante de toujours, j'ai commencé très tôt. Je suis rentrée dans le mouvement lesbien à Paris en 1985 et je me suis reconnue comme lesbienne radicale. J'écris depuis mon adolescence. J'ai publié notamment le livre de Camille en 2002, roman du désir d'écrire, et le Belvédère en 2008, roman du désir politique. J'ai participé aussi à des ouvrages collectifs, Lesbianisme et féminisme, histoire politique en 2003, et Fille de mai, 68 dans la mémoire des femmes, en 2004. De 2007 à 2009, j'ai tenu une rubrique de critique littéraire dans Lesbia Magazine, et en ce moment, j'écris la suite du Belvédère, le tome 2. Une de mes expériences politiques les plus importantes a été ma participation à l'école lesbienne de Bagdam à Toulouse de 2002 à 2004. J'ai fait une approche de Monique Wittig et Nicole Brossard à cette école lesbienne et je continue à l'Euro Lesbo Pride cette année avec une approche de l'œuvre de Michèle Kos qui est décédée il y a 2 ans. Alors, je ne suis pas une chercheuse universitaire, mais je cherche à ma façon. Je suis passionnée par la littérature lesbienne. Je milite pour que la pensée lesbienne politique soit toujours vivante, qu'elle sorte de l'université ou bien des placards quant à son histoire. Il ne s'agira donc pas de cours au sens scolaire du terme. Nous lirons ensemble, nous chercherons ensemble, nous réfléchirons ensemble. J'ai privilégié dans les textes de Michèle Kos ceux que j'avais aimé relire et travailler, ceux qui m'avaient le plus interpellée. J'ai lu plusieurs fois Contre le sexage, celui-là. Il y a encore des mots dont je ne retiens pas le sens, mais de moins en moins, des concepts encore pour moi difficiles à appréhender, mais de moins en moins. En tout cas, je fredonne la musique du sens de ce livre depuis le début et de mieux en mieux. Ce livre m'a aidée à vivre et j'ai envie de le partager. C'est pour nous, lesbiennes, que Michèle Kos a écrit, qu'elle nous a fait don de sa pensée et remercions-la en pensant avec elle. Voilà. Alors, je vais parler un petit peu du programme. Comment va se dérouler cette séance? En deux parties. La première partie, c'est moi qui vais parler. Il y aura des échanges après chaque intervention, bien entendu. Nous aurons une pause de 20 minutes. Et ensuite, je présenterai les ateliers. Et nous travaillerons en atelier pendant 45 minutes et après nous ferons une synthèse. Il y aura encore des échanges. Encore une autre pause et je terminerai par la présentation du livre de Michèle Kos, Berthe ou un demi-siècle auprès de l'Amazone, à peu près 10 minutes. On fera des échanges encore et on conclura la séance. Bon, tout ça c'est indicatif, hein, bien sûr. Alors, je vais commencer par vous poser une petite question, savoir... où vous en êtes par rapport à Michèle Kos? Chacune veut bien prendre le micro qui va se balader et me dire si elle la connaît, si elle la connaît un peu, si elle n'a jamais rien lu, si elle ne sait pas qui c'est. Voilà. Tu peux faire passer. Qui veut bien commencer?
Bonjour. Bon, moi j'ai connu, mais j'ai oublié. C'est pour ça que je suis là. Pour qu'on me rappelle qui est cette Michèle Kos. Je me souviens avoir aimé la rencontre, pas la rencontrer en chair et en os, rencontrer ses ouvrages, mais j'ai l'âge de les avoir oubliés. Voilà. Donc, je suis là pour réapprendre.
Pour rafraîchir la mémoire.
Voilà, c'est pour ça.
Voilà. Ah ben c'est super.
Merci. je ne connais pas. J'ai simplement lu quelques petites choses sur le net, mais très peu de choses. Je ne connais pas suffisamment.
Ah, quand même, vous êtes allé sur le net pour voir. Ça, c'est bien. Super.
Oui, eh bien moi, je n'ai jamais lu Michel Causse, mais j'ai beaucoup entendu parler d'elle parce que je fréquente un peu Madame, d'autres choses, etc. J'ai jamais vraiment lu rien d'elle, donc aujourd'hui, j'avais envie de venir ici justement pour entendre plus parler de son travail et de ses ouvrages et de sa pensée.
Oui, moi j'ai surtout lu les articles de Michel Causse, plus un ou deux de ses ouvrages, mais certainement pas tout, donc je la connais mal. Et ben ma foi, j'ai encore beaucoup à apprendre et à réfléchir sur ces textes, donc j'en profite. J'ai certainement eu du plaisir, parce que sinon je ne les aurais pas terminés.
Bon, je voilà. Disais que bon, je venais de Bruxelles et par l'entremise d'une amie, j'avais appris qui était Michel Causse, parce que je ne la connaissais absolument pas. Puis j'ai appris qu'elle avait réformé même le vocabulaire, qu'elle n'était pas du tout en accord avec le dictionnaire Larousse.
Ah oui, pour être pas d'accord, elle n'est pas d'accord.
Oui, pas du tout. Et bon, j'ai appris alors à ce moment-là, à partir de là, par son œuvre, son langage assez particulier, un langage qu'elle a pratiquement créé, et bon, comme ça. Et alors j'ai eu l'occasion de voir à une conférence Francine Leclerc qui a développé aussi tout un sujet sur elle. Voilà.
Bonjour. Oui, moi j'ai eu la chance de la rencontrer. J'ai été éblouie par son intelligence. J'ai adoré ses essais. J'ai eu beaucoup plus de mal avec les œuvres de fiction. J'en ai terminé aucune.
J'ai connu Michel dans les années 85. On a fait ensemble en Italie un séminaire d'études lesbiennes. Et j'ai toujours admiré la pensée, la clarté de sa pensée et surtout son combat, son amour des lesbiennes, son combat pour faire exister un imaginaire lesbien qui nous manque tant. Et en même temps, j'ai beaucoup de mal avec l'œuvre de Michel. J'avoue qu'il y a des livres où je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et il y en a tellement que j'admire. Et des fois, elle est tellement claire dans son pensée. Par exemple, dans le DVD de Denise Brial, elle est d'une clarté éblouissante. Et en même temps, dans ses livres, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Alors moi, je suis venue ici un peu pour essayer de mieux comprendre cette femme que j'admire, qui a fait des choses tellement grandioses, qui a des moments tellement éblouissants, des passages tellement rares dans la pensée. Voilà, juste pour approfondir et mieux comprendre Michel.
Denise, tu veux dire un mot ?
Que Denise Brial a talent de vidéoféministe, donc que dire après que des femmes lesbiennes aient vu ce film, effectivement, elle est éblouissante dans l'explication. Donc, c'est, voilà, je vous encourage à venir demain à 10h ici même. Et merci à Marion de faire ce travail, un hommage à cette femme rare. Merci.
Moi, je me permets de rajouter que grâce à l'intervention de Marion Page, qui nous a été proposée, l'Euro Lesbo Pride s'est posé la question: qu'est-ce qu'on fait, comment on réfléchit, et avec le concours d'une amie de Marie-Pierre, merci, nous avons réfléchi au moins une soirée sur certains concepts, et ce qui nous a amené à lire pour certaines « Quelle lesbienne êtes-vous ?» puisque les autres bouquins, on ne les trouve plus. Et on les avait à la bibliothèque du CED, « Quelle lesbienne êtes-vous » je ne sais même pas si on la trouve encore. On le coûte, voilà.
Bien. Moi, j'ai adoré ses essais. J'ai eu aussi beaucoup de mal avec ses fictions. mais bon, pour moi, c'est pas... comment dire ? Je comprends pas un mot, je comprends pas une phrase, je comprends pas un concept, je saute par-dessus, hein, je vais plus loin. C'est la musique du livre en premier, hein, qui me rentre dans l'oreille. Et ça, j'en avais l'intuition, je la comprenais même avant de lire mot à mot. Donc. Et puis, deuxième lecture, ça va mieux. Troisième lecture, ça va mieux. On discute avec d'autres, on éclaircit des choses. Et maintenant, ma quatrième lecture pour aujourd'hui me s'est passée relativement bien. Je comprends presque tout. Hein, et donc, j'ai eu envie de partager. Bon, alors, on va commencer par une petite introduction. Donc, le but, c'est de présenter Contre le sexage, d'essayer de voir ensemble où on en est avec ce livre novateur de cette femme rare, comme dit Denise, c'est vraiment l'épithète qui convient. Le langage, ça a toujours été son cheval de bataille. C'est, d'abord, elle est écrivain, bien entendu, mais en plus, elle est aux prises avec un langage qui n'est pas lesbien, loin de là. Et quand on est lesbienne, c'est pas facile de se dire avec ce langage. Et puis, d'un autre côté, ne pas se dire, c'est inconcevable. Alors, comment on s'en sort? Alors là, ça va ressembler un petit peu à un petit cours. Je suis désolée, mais on va échanger après. L'homo sapiens, nom scientifique de notre espèce, dite plutôt espèce humaine, de humanus propre à l'homme, utilise un langage qui divise ses populations en deux classes, supposées dérivées de la différence anatomique des sexes. Il y aurait les mâles, et par suite les expressions « les hommes » ou « l'homme » avec un H majuscule, auquel renvoie le genre masculin, accaparant le générique, représentant l'espèce entière, n'importe quel sujet dans l'espèce, et les femelles, genre féminin. En somme, il n'y aurait qu'un genre en français, le féminin, le masculin étant l'universel, universel qui l'emporte sur le particulier. Vous avez tout appris à l'école, vers 6-7 ans, que, en français, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. La maîtresse l'a dit, et peut-être aussi votre mère, et c'est écrit dans le livre de grammaire. De même, le genre masculin apparaît toujours en premier dans le discours normal. Les hommes et les femmes, le père et la mère, les garçons et les filles, les frères et les sœurs, le mâle et la femelle, etc. Cette hiérarchie politique, économique et idéologique du pouvoir dans l'espèce humaine, hiérarchie au profit des hommes, serait ainsi prétendument le corollaire politique, social et culturel d'une différence biologique. C'est pourquoi Nicole Claude-Mathieu parle d'anatomie politique, entre guillemets. Michel Causse, elle, emploie les termes de sexage et sexision, et nous verrons ça un peu plus en détail plus loin. Or, dans le langage qui structure nos représentations, ce grand coup de force se manifeste d'une rare violence, puisqu'il désigne la classe des femmes comme perdantes, régit le langage commun, mais aussi le langage littéraire et scientifique, non sans dommage pour la moitié de la population. C'est là, pour Michel Causse, l'injustice principielle, écrit sa collaboratrice Eliane Ponce, qui malheureusement n'a pas pu venir, qui disqualifie tout le système symbolique sur lequel est basé le langage de notre société. Les mots ne sont pas innocents, ils sont l'expression d'un coup de force. Et le genre est un système politique, peut-on lire dans Contre le sexage. Les mots de la langue du mépris contribuent à créer l'oppression, à l'actualiser en permanence et à en pérenniser les effets, dénonce aussi Françoise Armengaud, philosophe du langage, dans Nouvelle question féministe, en 1988. Avec le langage, nous ne quittons donc pas le champ de la violence masculine contre les femmes. Le langage est partie prenante de la production et de la reproduction de la société, écrit d'autre part Marina Jagello, citée par Françoise Armengaud dans son article. Nous, lesbiennes, comment dire et comment nous dire avec un tel langage? Hors de la classe des hommes et marronne de la classe des femmes, suivant la belle expression de Monique Wittig. Bon, j'ai perdu. Nous parlons un langage imposé dès l'enfance, que Michel Causse appelle l'androlecte. Nous continuons à parler au masculin et à employer par exemple le nom de notre propre sexe, le con, du latin cunus, comme adjectif injurieux ou pour le moins péjoratif, ainsi que tous ses dérivés, connard, connerie, connasse, etc., sans y penser et sans rien soupçonner. Pourtant, l'ère du soupçon sur le langage courant a commencé déjà avec Nathalie Sarraute en 1956 et Monique Wittig, grande admiratrice de Nathalie Sarraute, a continué avec son travail sur les pronoms personnels, vecteurs privilégiés du genre. Claire Michard et Claudine Ribéry ont dénoncé ont dénoncé le langage androcentré des scientifiques du langage. Framboise Leclerc a actualisé cette dénonciation dans des ateliers, dans son travail sur le dictionnaire. Michel Causse, philosophe du langage et lesbienne radicale, propose dans Contre le sexage la production de nouveaux concepts pour une nouvelle vision du monde, celle où la sapiens prend le relais de l'humanité avec un nouveau langage. À l'heure actuelle, une polémique... Ah oui, je voulais vous dire que vous avez une petite tablette sur le côté si vous voulez écrire et prendre des notes. Celles qui ont besoin de papier, j'en ai à leur disposition, ainsi que de crayons. Ici. Alors, j'aborde maintenant la partie à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, peut-être êtes-vous déjà au courant, une polémique se développe autour d'un amendement dans la loi sur l'école préconisant l'introduction de la notion de genre comme enseignement obligatoire. Vous avez entendu parler un peu de ça ? Hein ? Il y a une polémique sur Internet qui est lancée par une association qui s'appelle SOS Éducation, voilà, et qui prétend, enfin, on va en parler là, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle raconte. Il y a longtemps que le genre, en fait, est inscrit dans l'école avec la fameuse règle de grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin, qu'on apprend dès 6 ou 7 ans. Alors, cette association, détractrice de l'amendement, disent qu'avec cette théorie du genre, on va déconstruire dans la tête des enfants la distinction naturelle entre l'homme et la femme, niant allègrement ce que l'on sait depuis Simone de Beauvoir, que l'homme et la femme sont des constructions sociales, des catégories politiques qui n'ont rien de naturel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Monique Wittig recommande l'emploi au maximum du pronom indéfini neutre « on » dans le chantier littéraire, son dernier livre, du moins dans le champ littéraire en attendant mieux, et de se réapproprier un générique confisqué par la classe des hommes dans le champ théorique. Il ne s'agit pas de renverser la situation et de mettre le genre féminin gagnant sur le genre masculin, mais bien de déconstruire cette notion de genre qui pollue le langage humain. Michel Causse s'y emploie dans son livre « Contre le sexage », en proposant notamment de nouveaux pronoms personnels. La lecture de son article « Stratégie d'annulation du genre dans les paraboles parasites de Monique Wittig », mis en ligne en 2009, permet bien de cerner ce qui différencie sa démarche de celle de Monique Wittig. Nos chercheuses font leur travail, elles cherchent, elles pensent, elles nous invitent à lire leurs travaux et à réfléchir par nous-mêmes, car le savoir doit sortir de l'université, je répète, et être transmis. Je répète encore, c'est pour nous lesbiennes que Michel Causse a écrit ce livre. Remercions-la en le lisant et en l'étudiant. Et relisons l'anatomie politique de Nicole Claude Mathieu, ainsi que Sexe, race et pratique du pouvoir de Colette Guillaumin. Bon, on fait une petite pause pour un petit échange. C'était donc une introduction sur le rôle du langage dans l'oppression des femmes. Je suppose que vous avez bien quelque chose à dire là-dessus.
Ça va être difficile à dire, parce que déjà, elle est difficile, elle aussi. Bon, on parle beaucoup des écrits des lesbiennes par rapport à ce problème qui est le genre, qui est en effet un problème. Ce que j'aimerais savoir, c'est la différence qu'on fait entre les écrits des lesbiennes parlant de ce sujet, et des femmes qui ne sont pas lesbiennes, et qui parlent aussi de ce sujet. Il appartient à tout le monde, ce sujet des genres. Il frappe tout le monde, y compris celles qui ne sont pas lesbiennes. Sur la table,
une réflexion
que je me fais.
Bon, avant de répondre, est-ce qu'il y a quelqu'une là qui voudrait dire quelque chose pour répondre à, tu dis ton prénom ? À Monique ?
Oui, il y a également des travaux universitaires sur le sujet. Et les travaux universitaires ne s'opposent pas forcément aux travaux des lesbiennes. Je pense au travail de Claire Michard, notamment. Et puis, j'oublie le nom, il ne me revient pas, d'une femme maître de conférence à l'Université de Toulouse, grammairienne, et qui a travaillé aussi sur, notamment, l'injure Et comment on différencie l'injure quand elle s'adresse à des hommes et l'injure quand elle s'adresse à des femmes, et à partir de quels mots ces injures sont fabriquées. Et en fait, les injures qui désignent les hommes, enfin qui s'appliquent aux hommes, sont toujours des injures valorisantes. J'espère que le nom va nous revenir à l'une ou à l'autre, hein, de cette femme remarquable aussi. Et quand les injures s'adressent à des femmes, elles sont toujours dévalorisantes. Voilà. Et j'espère que je vais retrouver. Alors, je voulais dire quelque chose d'autre aussi, peut-être. La difficulté avec l'œuvre de Michel Cosse, c'est que justement, elle ne se situe pas, et c'est peut-être ça qui vous surprend, elle ne se situe pas dans un travail universitaire, elle ne revendique pas ce travail universitaire parce qu'elle pense que l'université a tout fait pour exclure de la réflexion les femmes et surtout les femmes lesbiennes, c'est-à-dire que quand l'université a laissé entrer en son sein des femmes, c'était des femmes sur lesquelles les hommes pensaient avoir une certaine emprise. Voilà. Et c'est donc pour cela qu'elle a ce terme de marronne qu'elle a emprunté à Nicole Claude Mathieu.
Ah non, à Monique Wittig.
À Monique Wittig, voilà. Et parce qu'en fait, les lesbiennes sont des dissidentes parmi les femmes. Hein. Et donc, la difficulté dans l'œuvre de Michel Cosse, c'est qu'elle ne va pas travailler sur la langue d'un point de vue grammatical ou linguistique. Elle va travailler d'un point de vue psychanalytique. Et là, on touche à des choses beaucoup plus difficiles à comprendre. Et donc, si je ne me trompe pas en parlant de l'œuvre de Michel, dommage qu'Eliane ne soit pas là. Mmh. Hein, j'ai tout fait pour qu'elle vienne, mais... Bon.
Non, mais elle a des problèmes de santé.
Et oui, elle peut pas. Et oui. Et elle ne pouvait pas venir, malheureusement. Et donc, Eliane est une psychanalyste, Eliane Ponce, qui a travaillé avec Michel Cosse. Et à elles deux, elles ont essayé de trouver un pronom qui permette d'atteindre ce qu'elles appellent le symbolique. En fait, tout ce qui n'est pas nommé n'existerait pas, selon les psychanalystes. Bon, je suis prudente, je ne suis pas psychanalyste, ce n'est pas du tout ma partie, mais pour que quelque chose existe, il faut que cette chose soit nommée. Et lorsque cette chose est nommée, elle existe et elle se transmet à travers des représentations qui la font vivre. Et donc, la question ne se poserait donc pas sur le plan linguistique, mais se poserait au niveau du symbolique d'un pronom qui serait neutre, qu'elle a appelé Ul. Pourquoi Ul? Je n'en sais rien, il faudrait le lui demander. Et ça me fait un écho avec une expérience qui se passe dans un pays scandinave, je crois que c'est la Suède, où chez les enfants de l'école maternelle, il y a des expériences sur lesquelles on gomme la masculinité ou la féminité du prénom pour que les enfants ne soient pas marqués par leur sexe dès les premiers apprentissages. Parce qu'en fait, c'est même dès l'état de bébé qu'on va parler différemment à un petit garçon et une petite fille et qu'on va construire comme cela son genre simplement par la façon dont on lui parle.
Oui, et en Suède, c'est d'autant plus remarquable.
Tu peux nous dire ton prénom, pardon ? Marie-Pierre, d'accord. Merci.
En Suède, c'est d'autant plus remarquable que la langue n'a ni masculin ni féminin comme en danois. Il y a les mots en ET et en EN qui n'ont rien à voir avec le masculin et le féminin. Et bon, moi, je voulais dire de la question gendre qu'effectivement, c'est un grand problème qui se pose et qui se mélange en plus pour nous lesbiennes avec la question queer. Ou dans ce cas-là, dans les problèmes queer, les lesbiennes sont niées. Et je sais que Michel Cosse n'était pas du tout queer, mais s'interroger, bien sûr, sur le genre. Donc, c'est un problème qui se pose quand on parle de genre.
Attends, Monique, je voudrais te répondre.
J'ai retrouvé le nom de la maître de conférence de l'Université de Toulouse, que je vous incite à lire. Hein. Bon, il n'y a pas d'ouvrage, je crois qu'il y a énormément d'articles. Jackie Schoen.
Ah, c'est Jackie Schoen, d'accord.
Jackie Schoen, d'accord.
Bon, moi je vais répondre à Monique qui parlait de la façon dont on reçoit les textes suivants qui sont lesbiens ou pas. Il y a des lesbiennes féministes qui ne se clament pas lesbiennes mais qui ont été très interpellées par cette question du genre. Il y a Hélène Cixous, il y a Lucie Rigaray, à laquelle Michel Cosse fait référence très souvent. Hein, très souvent, leurs pensées se rejoignent sur plusieurs points. Bon, après, il y a des stratégies différentes et tout ça. Mais ce que j'aime, justement, dans ce livre, c'est l'intertextualité, c'est-à-dire, Michel, elle parle constamment de tout le monde, de tout ce que tout le monde a écrit, même des penseurs hommes, et notamment Lucie Rigareille et puis Hélène Cixous, sur cette question qu'elle n'est pas la première à soulever, mais elle est la première à aller plus loin et à proposer une utopie. Hein. C'est ça qui est, enfin, moi qui m'a beaucoup interpellée. Bon, qui donc voulait prendre la parole encore?
Je pensais à Simone de Beauvoir qui disait « On n'est pas femme, on le devient ». La même chose pour les garçons, elle a oublié de le dire. On n'est pas homme, on le devient. La société trouve tout ce qui n'est pas dans ce sens-là, d'une fabrication d'un homme et d'une femme en vue de probablement de la reproduction, les hommes pour la guerre, les femmes, etc. Tout ce qui n'est pas dans ce style est subversif. Voilà. Donc le genre, c'est subversif. Le genre, c'est une notion vieille, c'est sûr, mais dont on parle plus actuellement. C'est d'autant plus subversif que ce que je dis, je suis sûr que c'est vrai. La femme, comme dit Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. C'est quand même très important pour elle d'avoir dit ça. C'est la vérité. Mais pareil pour les hommes, pareil.
Moi, c'est juste là une petite précision que je demande, parce qu'on a utilisé le mot queer, là. Quelqu'un a utilisé
oui,
le mot queer.
Oui, oui.
En fait, moi, je ne situe pas très bien l'étiquette queer. Qu'est-ce que ça représente, une femme queer? Voilà, ou une lesbienne queer, ou je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est exactement par rapport...
Qui veut répondre à cette...
Je sais un peu, moi, en tout cas, si vous autres, tout le monde sait de quoi on parle.
Qui veut répondre?
Y a-t-il une queer parmi
vous? Je vais essayer de répondre, mais je garantis rien. Queer, ça fait référence aussi au livre de Judy Butler, et bon, qui est un livre très compliqué à lire. On trouve que Michel Causse, c'est difficile, mais alors Judy, c'est pire. C'est parce que c'est philosophique en plus, donc il faut, je présume, des tas de connaissances que je n'ai pas en philo. Et en tout cas, c'est une théorie qui s'est développée aux États-Unis qui fait qu'on n'est ni homme ni femme. Donc, n'étant ni homme ni femme, il n'y a pas de lesbienne. Bon, peut-être. Bon, il y a les intergenres, les intersexes, qui ne sont pas la même chose, hein, pas mélangés. Je n'ai pas trop compris la différence, mais il y en a une. C'est une espèce d'indifférenciation. Et à mon avis, c'est aussi une façon de nier les lesbiennes. Et les femmes aussi. Donc beaucoup de féministes sont un peu contre la théorie queer, sans être contre l'idée de genre. En tout cas, et toutes les féministes sont évidemment pour Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme ou on ne naît pas homme, on le devient, c'est une construction sociale et politique. Voilà, c'est ce que je pourrais dire sur les queers. Enfin bon, voilà. Mais n'étant pas queer moi-même... C'est la tendance des jeunes qui s'habillent... indifférencié, mais nous aussi en tant que lesbiennes féministes on s'habillait androgyne, donc bon, en tout cas je sais que c'est une façon de nier un peu les lesbiennes. Voilà. Parce qu'il y a les hommes lesbiens, moi ce qui m'a toujours étonnée.
Oui, les queers, je ne sais pas si c'est peut-être une utopie du futur, je reste très prudente comme ma voisine sur cette théorie pour l'instant, parce que je crois que bien souvent, il faut affirmer une différence pour la déconstruire. Ça m'évoque quand on demandait le droit de vote, la citoyenne paradoxale, par exemple, c'est qu'on demande les mêmes droits, mais pour demander les mêmes droits, il faut bien qu'on s'identifie à un moment donné comme un groupe différent qui n'a pas les mêmes droits. Alors peut-être est-ce que... Alors c'est l'état de la réflexion dans laquelle est en ce moment le mouvement politique lesbien, je pense. Il se peut qu'aux États-Unis, certaines personnes soient en avance, ou alors qu'au contraire, ça soit un mouvement régressif. C'est pour ça que je reste très prudente. Et effectivement, selon les queers, il n'y aurait ni homme ni femme. Donc dans ce cas, il n'y a pas de gay, il n'y a pas de lesbienne, puisque l'orientation sexuelle ne serait qu'un continuum comme un peu un cercle de Möbius. Là, on pourrait passer indistinctement de l'un à l'autre, comme certaines espèces de poissons. On serait tantôt homme, tantôt femme. On serait des hommes qui aiment les femmes, des hommes qui aiment les hommes. Et y aurait cette continuité ténue qui ferait qu'il n'y aurait pas de catégories, en fait, dans lesquelles on classerait les gens. Alors, en même temps, effectivement, ça nie notre existence.
Et ça nie notre besoin de lutte pour obtenir la reconnaissance et l'égalité.
Es-tu un peu mieux au fait de la question queer ? Je parle. Rappelle-moi ton prénom. Chantal.
De lire peut-être un peu plus sur la question, parce que finalement, je ne m'étais pas vraiment posé la question. J'avais entendu ce mot sans vraiment approfondir ce que ça signifiait, ou en tout cas aller un peu plus loin. Et tout d'un coup, je trouve que ça ouvre beaucoup d'horizons et pose beaucoup de questions.
Juste par souci de pluralité, mais je crois que Michel Kos ne partageait pas le point de vue de ces deux théoriciennes. Pour Chantal, qui est intéressée par la question queer, il y a peut-être des ouvrages un peu plus simples que Judith Butler, qui est vraiment très très difficile. Béatrice Preciado et Marie-Hélène Boursier.
Moi, je voudrais dire un mot. Il y a, pour faciliter un petit peu les choses, les queers ont leur film culte, ont leur réalisateur culte qu'on connaît bien. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais les films d'Almodovar, par exemple, c'est les films queer que tout le monde trouve ça bien. Du moment qu'on n'est pas comme les autres, du moment qu'on n'est pas dans la norme, et du moment que on se différencie, eh ben c'est bien. Tout est bien. Tout est permis et tout est bien. Voilà. Bon, moi, c'est tout ce que je veux dire. Je voudrais pas qu'on s'éternise sur le mouvement queer parce que c'est pas mon truc. Hein. Ça fait pas partie
juste un mot,
de Michel Kos.
Juste un mot, queer, justement, en anglais, veut dire, ça s'oppose à straight, c'est-à-dire straight, ce qui est à la fois hétéro et droit, et queer, c'est ce qui est, comme tu l'as dit très bien, qui se différencie, qui est, etc.
Voilà. Point. Qui veut encore intervenir sur le rôle du langage dans l'oppression des femmes ? Je voudrais bien savoir, moi, parmi le public... Nous sommes quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Super. Honnêtement, qui emploie encore le mot « con » et ses dérivés dans le langage courant ? Hélas, voilà. Oh, ben que trois, vous êtes sûrs les autres ? Ah oui. Bon, Claude. Il faut lui donner le micro. Et prends-le, il est là. Voilà. Et Claude, s'il te plaît, tu parles fort.
Oui.
Voilà.
Oui, moi, je l'utilise, oui. Certes, pas à longueur de temps, mais ça m'arrive de l'utiliser. En revanche, j'apporte la précision suivante. Je n'ai jamais utilisé le mot « con » pour désigner mon sexe, le sexe d'une femme, ou le sexe des femmes. Jamais. Et je n'ai su que ce mot désignait le sexe des femmes que fort tardivement, j'étais largement adulte, et je me souviens de l'avoir lu à longueur de page dans Envol de 4000 lettres, donc c'était il y a déjà fort longtemps, et ça m'a choqué chaque fois que je le voyais utilisé comme... mot désignant le sexe des femmes. Alors, évidemment, je ne dis pas du tout que cette réalité de fait se justifie et qu'elle doit être un modèle. Pas du tout, absolument pas. Mais c'est une réalité historique qui est ce qu'elle est, c'est tout. Que, bien entendu, je suis toute prête à remettre en question, la question n'est pas là, mais que je ne peux pas renier. La remettre en question, oui. Dire que ça n'a pas existé, non. Et d'ailleurs, même en la remettant en question, je n'arrive toujours pas, et je crois que je ne vais pas me forcer, parce qu'au fond, il n'y a pas de raison, je n'arrive toujours pas à désigner mon sexe, le sexe d'une femme ou le sexe des femmes par ce mot-là. Et c'est vrai qu'il m'arrive de dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oui, 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 c'est juste. Et je ne pense jamais, disant ça, mais jamais, je dirais à aucune femme, ni aucune partie du corps possible d'une femme que ce soit. Voilà. Bon, si vous y tenez absolument, je vais essayer de me réformer.
Non, mais c'est bien justement là le problème, c'est que ça ne pose pas question. Ça passe comme ça, ça va de soi, ça fait partie de la convivialité, mais c'est comme ça que la violence rentre et se perpétue. Je ne vais pas en dire plus, c'est mon dada, ça, hein, l'emploi du mot con. Alors, on va pas rester là-dessus jusqu'au réveillon, hein, mais voilà, je voulais que la question soit un petit peu soulevée. Y a-t-il encore quelqu'une? Ton prénom? Geneviève.
Nous parlons de ces trois petites lettres-là, et il se trouve qu'il y a un très beau texte de deux grandes pages. Ce texte a été écrit par un homme, et il s'appelle Le Blason, et Le Blason a été écrit par Georges Brassens. Et il parle des trois petites lettres, et il ne dit jamais le mot. Il dit quelle honte à celui qui a osé le prononcer le premier. Si vous voulez, vous pouvez lire ce très beau texte qu'il a mis en chanson,
oui,
bien
oui,
sûr.
Oui, oui. Alors, je voulais préciser qu'on trouve effectivement ce vocable dans la littérature, beaucoup, beaucoup dans la littérature érotique masculine. Hein. C'est là que le con est là à longueur de page. Hein. Effectivement, c'est pas chez nous. Voilà. C'était pour faire une précision.
Oui, moi je voudrais savoir, au départ, le sexe des femmes était désigné sous ce mot con, mais ça a commencé quand? Moi je savais pas comment ça s'appelait un con. Enfin, je l'ai su après, mais ça démarre quand? Voilà, historiquement.
Le cunus, cunus latin.
Je sais que ça vient du latin, du mot qui veut dire lapin et qui désignait le sexe de la femme. Alors de lapin, ça fait cunus, puis c'est après c'est venu au cuninus ou je sais pas quoi, c'est passé à con. Voilà. Mais par quel phénomène et pourquoi le sexe de la femme comme insulte? Je présume que les mecs se traitaient de sexe de la femme pour s'insulter entre eux, comme ils se traitent de femmelettes, etc.
On va peut-être passer maintenant à la présentation vraiment du livre lui-même contre le sexage.